Eh bien, rebonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, comme prévu, eh bien, j'ai deux invités dans notre studio en direct de Fréquence Mistral 99.3 pour nous représenter un peu cette association utile, Jeanne Malve, jusqu'à la vie, accompagner la mort. Et pour cela, donc, nous avons Annie Pegolotti, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes accompagnée de...
Régine.
Régine, également membre de l'association.
C'est ça.
Et Annie, donc présidente de l'association Jeanne Malve.
Tout à fait. Alors Jeanne Malve, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Et
j'ai dit une bêtise.
Elle a dit l'inverse. Mais c'est pas grave. On dit toujours que le mot le plus important, c'est le mot vie. Jusqu'à la mort, accompagner la vie.
Voilà. Ah oui, et j'ai fait un lapsus. Alors
voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est très fréquent.
D'accord.
Bon, puis qu'on a l'antenne, on en profite pour réajuster, mais c'est pas grave.
Cette association va faire peut-être un petit rappel sur son existence, ce que vous apportez et à qui.
Tout à fait. Alors, nous existons à Digne depuis 1993, c'est-à-dire que l'année prochaine, nous fêtons nos 25 ans d'existence sur Digne. Cette association a été créée suite à l'expérience de soins palliatifs à domicile, initiée à l'époque par Mutalp. Et donc, il y avait une équipe de professionnels très complète qui venait à domicile s'occuper des personnes en fin de vie. Donc c'était la première vraie expérience de soins palliatifs, je pense, sur le département. Et même en France, il y avait très peu d'expériences comme ça de soins palliatifs. Alors, cette équipe comprenait, comme toutes les équipes de soins palliatifs, une équipe de bénévoles. Quand les budgets n'ont plus été renouvelés, les bénévoles ont voulu continuer à exister et ont créé une association qui, très rapidement, s'est reliée à Jeanne Malve. Jeanne Malve, c'est une fédération actuellement. La première association Jeanne Malve a été créée à Grenoble en 1983 par le professeur Scherer, qui est un cancérologue connu. Et il y a une fédération, maintenant c'est relié en fédération, il y a autour de plus de 80 associations en France. Donc à Digne, nos actions sont à la fois d'accompagner des personnes très malades en fin de vie, leur famille, d'accompagner le deuil aussi. Et pour cela, nous avons des formations. Nous sommes accompagnés nous-mêmes par un groupe de parole. Nous avons un groupe d'entraide de deuil une fois par mois le mardi. Et la deuxième action est de faire évoluer les mentalités autour de la mort avec essentiellement le fait de faire connaître la loi dite Leonetti, qui maintenant est la loi Claes-Leonetti, puisqu'elle a été révisée en 2016. Voilà. Donc, on est toujours sur l'ancienne campagne qui avait été initiée par la Fédération, qui est « Faisons connaître la loi, il est urgent de connaître la loi, puisqu'elle n'est pas encore connue et souvent mal appliquée. » D'où des situations difficiles que vivent certaines familles, ben parce que on n'a pas respecté les termes de la loi, qui sont calmer la douleur. Il y a encore des personnes qui souffrent beaucoup trop en fin de vie, qui sont respecter les volontés de la personne qui a pu exprimer des directives anticipées et choisir une personne de confiance, et donc qui ne répondent pas à l'obligation de ne pas pratiquer d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire des soins qui n'ont plus lieu d'être. Donc, ça s'assortit d'un chapitre autour de la sédation, qui est à définir de façon très très précise, essentiellement permettre l'arrêt des traitements et permettre une mort douce en s'endormant. Voilà, par la sédation terminale. Sinon, de calmer les douleurs avec une sédation qui peut être levée, la personne se sent mieux, elle vit des moments auprès de sa famille, ce sont des moments qui nous semblent à nous essentiels. Et puis si elle souffre trop, bien on refait une sédation. Ça répond souvent à des douleurs difficilement calmées. Le concept de souffrance, il est très vaste, parce que non seulement il y a la douleur physique, qui souvent maintenant quand même arrive à être calmée, mais la douleur morale, et donc ça fait une souffrance. Hein. C'est vrai que les personnes accompagnées, on en a l'expérience, mais même les doses de calmants sont plus basses. C'est vrai que le fait de pouvoir parler, l'accompagnant, ça fait un peu la triangulation, c'est-à-dire que ça permet une parole que la personne ne peut pas forcément dire à sa famille, qu'elle a peur, qu'elle souffre moralement, etc. Et puis ça peut permettre, dans certains cas, de terminer en se disant au revoir de façon plus douce. Après, on ne fait pas le projet sur la façon les personnes choisissent. Enfin, je veux dire, c'est leur projet de vie, ce n'est pas le nôtre. Hein. Voilà, leur projet de fin de vie. Mais enfin, quand même, on a des témoignages de nos bénévoles où le fait d'être accompagné, les personnes sont beaucoup moins angoissées. Et on leur dit, vous existez toujours dans la société, même si vous êtes très vieux, même si vous êtes très malade. Voilà pour l'association.
Alors, quand vous dites que la loi Leonetti, donc, est si mal connue, a été révisée en 2016, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que encore beaucoup de personnes ne savent pas en quoi consiste cette loi. Alors qu'on peut aller sur les sites de Jalmav, sur les sites de l'ASFAP, j'encourage tout.
C'est-à-dire ?
L'ASFAP, c'est la Société française de soins palliatifs, et le site de Jalmav, donc...
Alors, Régine, les coordonnées de Jalmav.
Le site de la fédération.
Alors, la fédération Jalmav, à Paris, 76 rue des Saints-Pères, fédération.jalmav@outlook.fr ou sur www.jalmav-fédération.fr.
Les personnes peuvent aller plus facilement sur le site.
Voilà, oui, sur le site.
Jalmav.fr, quoi.
Voilà. Jalmav... Fédération. Faut pas oublier. Parce qu'il y avait un ancien site qui ne fonctionne plus et qui a des virus. Donc, c'est pour ça qu'on a changé il y a peu de temps.
Je vais peut-être le répéter. Ouais. www.jalmav, jalmav-fédération.fr.
Très bien.
Voilà.
Et là, on trouve tous les renseignements sur la
tout
loi
fait,
Leonetti.
Tout à fait, oui.
Alors, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, enfin, pas vraiment à voir.
Comme vous l'a expliqué, madame, le docteur Raffi, qui s'occupe de l'équipe territoriale de soins palliatifs,
oui.
C'est vrai que quand les personnes ne souffrent pas, comme elle disait aussi, la mort, c'est toujours une souffrance, hein, parce que qui est content de quitter ce monde ? Si la loi est bien appliquée, nous, on n'en parle pas. L'euthanasie, ce n'est pas notre problème, si vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que, socialement, maintenant, on est plus dans une société de l'immédiateté, nous, on a des valeurs plus humanistes, on pense qu'il y a d'autres solutions, si vous voulez. Donc, on se situe bien entre le non-acharnement thérapeutique et pas d'euthanasie. Pour nous, ce n'est pas notre problème. Si la loi Leonetti est bien appliquée, on n'en a même pas besoin. Et M. Leonetti, qu'on a eu le plaisir d'écouter en conférence lors du congrès de l'an dernier à Belfort, il dit « Celui qui lâche en dernier, c'est bien le malade ». Et c'est vrai que dans les services de soins palliatifs, même avec une demande d'euthanasie, quand il y a une bonne prise en charge, il n'y a plus cette demande. Donc, je veux dire, faut prendre le problème dans le bon sens. Si... il y a un accompagnement par une équipe, parce que nous, on n'est pas des professionnels, on n'est pas la famille, on n'est pas le médecin, on n'est pas le soignant, hein. On est vraiment le bénévole. S'il y a un bon accompagnement par les équipes de professionnels, par les médecins, s'il y a une bonne coordination, les demandes d'euthanasie ne viennent pas.
C'est-à-dire qu'une personne qui est simplement calmée, c'est ça, hein,
Ce sont les situations de douleur non calmées, d'incompréhension, de solitude, de regard sur soi, négatif, si quelqu'un vient vous réassurer, vous dire non, vous avez toujours votre place dans la société, vous êtes âgé mais vieux, c'est pas un gros mot, voilà.
Je prends le cas de la maladie d'Alzheimer, oui. On sait comment elle évolue difficilement, physiquement, mentalement, les personnes sont en extrême souffrance et elles peuvent, sachant qu'elles sont condamnées, pour ne pas perdre leur dignité totalement, elles ne peuvent pas faire appel à l'abrégement de...
Alors, nous, déjà, on dit qu'une personne garde toujours sa dignité, parce que la dignité, pour nous, est inaliénable. Donc, c'est vrai que... qu'est-ce que ça nous dit, ces personnes ? Ça nous dit que, dans la société, il y a des personnes plus faibles et qui ont besoin de l'attention du reste de la société. Donc, je veux dire... où ça commence, où ça finit, à partir de quel moment on serait indigne de vivre ? C'est une bonne question à se poser. Mm-hmm. Et là, il faut peut-être s'adresser à l'association France Alzheimer, qui prend en charge les personnes. C'est vrai qu'actuellement, on parle de plus en plus d'aide aux aidants, parce que là-dedans, ceux qui souffrent aussi, ce sont les aidants qui vivent le problème au quotidien aussi. Et bon, nous, on se trouve souvent dans des situations où des personnes comme ça, ben, on les a réanimées, on les a prolongées pour rien. Et là réside le problème, c'est-à-dire dans l'acharnement thérapeutique, à mon avis. Si déjà on supprime l'acharnement thérapeutique, on aura déjà fait un grand pas.
Et ça, ça fait partie de la loi Leonetti.
Tout à fait.
Alors moi, je voudrais compléter peut-être.
Oui.
Donc je suis Régine, je suis à l'association depuis 15 ans. Je suis aussi coordonnatrice des bénévoles et bénévoles. Donc je voudrais rajouter par rapport aux propos d'Annie, pour la question que vous avez posée, par rapport à l'impuissance des malades de faire part de leurs souhaits. Mmh. Voilà, alors d'où l'importance de faire les directives anticipées, même quand on est en bonne santé.
Et surtout, même.
Et désigner surtout une personne.
Au préalable.
Une personne proche. Une personne proche ou pas, d'ailleurs, mais une personne de confiance. La personne de confiance est très importante dans ces cas-là.
Donc, on fait quoi ? Un papier ?
Un papier, il y a des imprimés qu'on tient à la disposition des personnes, voilà, sur les directives anticipées, comment on les rédige. Alors, depuis 2016, il y a eu des changements. Maintenant, elles sont valables tant qu'on ne les modifie pas, voilà. Donc, on précise, là, on n'a pas porté, effectivement. Voilà, il y a tout un protocole, enfin, il faut l'écrire à la main. Et on peut marquer nos souhaits par rapport à ce qu'on nous souhaite. Voilà, et précise bien, si je ne suis plus capable d'exprimer ma volonté, coma, perte des volontés, avoir rédigé ces directives anticipées désignées permettra de connaître sans ambiguïté mes souhaits ou mes volontés sur la conduite à tenir concernant ma fin de vie. Voilà, donc peut-être je peux vous en parler.
Oui, ça ouais, c'est très intéressant.
Alors, par exemple, j'ai un exemple d'expression. Je sous-signais nom, prénom, Néa, déclare rédiger ce document en toute liberté, sans pression extérieure et en pleine conscience, possession de mes facultés. Si je me trouve hors d'état d'exprimer ma volonté à la suite d'une infection grave et incurable, quelle que soit la cause ou d'un accident grave, entraînant une dégradation irréversible de mes facultés, je souhaite que ma personne de confiance, ma famille, mes proches soient consultés sur mes volontés concernant la fin de vie. Qu'on n'entreprenne ni ne poursuive les actes de prévention et les traitements médicaux qui n'auraient que pour seul effet que la prolongation artificielle de ma vie. Par exemple, réanimation cardio-respiratoire, assistance respiratoire, nutrition et hydratation artificielle. Que l'on mette en place tout traitement à visée de confort, très important, parce qu'on ne veut pas laisser les personnes sans soins. Que l'on soulage efficacement ma douleur et mes souffrances, même si cela peut éventuellement avoir pour effet secondaire d'abréger ma vie. C'est ce qu'Annie disait par rapport à la sédation. Autre souhait, particulier peut-être, fais-le, signature. Voilà.
Donc ça, c'est un imprimé, c'est un modèle.
C'est un modèle.
Un modèle de directive anticipée que chacun pourrait faire.
Tout à fait.
De son... même du temps où il n'est pas atteint de maladie.
C'est ça, surtout du temps.
Oui, voilà.
Ça veut dire
oui.
Comme le titre de la journée
où
nous avons participé avec l'équipe territoriale Vivensa, qui disait « Parlons-en », et c'est une grande campagne aussi nationale, « Parlons-en avant qu'il ne soit trop tard ». Et c'est vrai que nous, on dit toujours « En parler, ça ne fait pas mourir ». Mais ça permet de cadrer. C'est vrai que parfois, il y a une situation difficile. La personne n'a même pas exprimé ses volontés sur « Est-ce que je vais être incinéré ? Est-ce que je vais être inhumé ?» Je veux dire, en parler avec ses enfants, avec sa famille, voilà, on prend...
Et donc, pour ces directives anticipées, elles sont écrites, bien sûr, manuscrites, signées. Est-ce qu'il y a besoin de présence d'un notaire ou de je ne sais quoi ?
Non, on peut préciser dessus qui est la personne de confiance.
Oui.
On peut les donner à son médecin, puis on peut les avoir sur soi, comme on peut avoir une carte de donneur, mais surtout la personne de confiance. Et qu'on dise, j'ai rédigé des directives anticipées autour de soi.
Bien entendu.
Et ma personne de confiance, voilà. C'est telle personne.
Bien entendu, on peut les refaire. Si, on ne sait pas, dans la vie, on peut avoir des soucis de santé qu'on n'avait pas prévus, Donc on peut effectivement les modifier.
Et maintenant, elles ont plus de poids qu'avant dans la loi de 2005. Je veux dire, c'est vrai que cette loi remet vraiment la volonté de la personne au sens et on doit les respecter. Sauf si, par exemple, dans certains cas, il peut y avoir des exceptions ou si les médecins sur un lieu d'accident voient une personne qui est réanimable sans avoir de séquelles, là, elle peut... Ils peuvent y sursoir. Nous, on appelle ça, en plaisantant, parce qu'on arrive aussi à plaisanter sur le sujet, le syndrome du porte-manteau. C'est-à-dire qu'on est inanimé, on entend tout ce qui se passe et on se dit, pour vous qui ne trouvez pas dans ma poche le papier, ne me réanimez pas. Voilà, donc... Là, je plaisante, mais c'est vrai que c'est important d'y penser. Je redis encore une fois, on sait tous qu'il y a une chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'un jour, elle va s'arrêter. On espère le plus tard possible, bien sûr.
Et puis, on va revenir sur ces quatre étapes, c'est ça, hein, mmh. que vous avez organisées. Alors, si vous voulez nous en parler.
Bien sûr. Alors, c'est une exposition qui s'adresse aux enfants, à pas compter de 5 ans. Alors, c'est des ateliers ludiques, naître, grandir, vieillir et mourir, où les enfants s'amusent, participent. Ça dure 10 minutes, c'est pas très long. C'est interactif, c'est-à-dire ils participent, par exemple, aux ateliers grandir. Ils changent les bébés, ils promènent, voilà, ils font part de leurs connaissances par rapport à la contraception, comment naître les bébés, voilà. Et il y a surtout le tunnel de vie, qui est très important, c'est-à-dire on demande le prénom à l'enfant. L'enfant rentre dans le tunnel, les copains de classe l'accueillent, et ça y est, Nicolas est né, super et tout. Et c'est très bien parce que ça peut réparer éventuellement si à la naissance ils ont eu quelques soucis inconsciemment, voilà, qui perturberaient un petit peu leur petite enfance. Le stand grandir, nous avons des futurs pompiers, des gens de chantier, celui qui veut se marier, celui qui ne veut pas se marier, voilà. Grandir, par rapport à nous avons des vêtements de différentes tailles, voilà. Donc il y en a qui veulent rester petits, il y en a qui veulent grandir, voilà. Le stand vieillir, ils sont très doués pour faire les petits jeux, avec la canne, le chapeau, ils rient aux éclats, c'est formidable, voilà. Et le stand de mourir, même là, ils sont assis, on est assis par terre, voilà, et ils discutent et ils ont beaucoup de choses à dire en fait. Moi, mon papy, il est mort cette année, mais je ne sais pas où il est, je sais pas où il est enterré, voilà. Et donc ils parlent, oui, ils écoutent, certains écoutent. Et sur la fin, on leur donne un petit post-it avec un crayon, et ils font des dessins. Au papy, au lapin, au chat qui est décédé, voilà. Et ça se passe super bien. Et c'est surtout que ça ouvre la parole après dans les familles. Parce qu'après, à midi, il rentre et dit, mais on m'avait dit que mon papy, il est mort, mais je ne sais pas, moi, je ne me rappelle plus où c'est qu'il est et tout. Donc ça ouvre le dialogue et on reparle du papy. Et souvent, les familles viennent après, parce que c'est aussi ouvert au public. Le lundi, alors, pour le public, c'est entrée libre, bien sûr. C'est le mardi, jeudi, de 17h à 19h, et le mercredi, de 14h à 19h.
Alors, attendez, entrée libre pour tout le public.
Oui, le mardi, jeudi.
Mardi et jeudi.
De 17h à 19h.
Oui.
Et le mercredi, de 14h à 19h, le mercredi après-midi.
14h à 19h, toujours pour tout public.
Oui, pour le public. Le reste du temps est consacré aux écoles. Sur rendez-vous, bien sûr.
Alors, est-ce que c'est déjà la deuxième ou troisième fois ? Deuxième fois.
En fait, deuxième à Digne et troisième parce qu'on avait fait ça à Manosque il y a 14 ans.
Oui, voilà, vous m'en aviez déjà parlé. Donc, deuxième fois à Digne, ce sera le ?
Alors, du 17 au 19 octobre.
17 et ça tombe donc à partir du mardi, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Du mardi au jeudi, à la salle de l'Atrium. Près du centre des Michel, entre le centre des Michel et la mairie.
Donc c'est gratuit.
Oui, bien sûr.
Et c'est aussi pour les écoles. Comment ça s'est passé l'année dernière ? Donc avec les enfants,
oui.
Les instituteurs qui ont accompagné. C'est vous qui prenez contact avec les instituteurs ?
Alors, on a fait une grande diffusion par la mairie. Plus nous sommes allés dans les écoles présenter le projet. Voilà. Et après, ils nous contactent, nous fixons rendez-vous. Voilà. Donc, le souci des écoles, il y en a beaucoup qui sont intéressés à l'extérieur de Digne, mais le souci, c'est les cars. Venir en car, ça coûte excessivement cher. Donc, voilà. Donc, c'est surtout des écoles où les enfants peuvent venir à pied. Voilà.
Et par exemple, ça fait combien d'enfants vous avez pu...
L'an dernier, nous avons vu...
Cinq classes.
Cinq classes de différents âges. Hein. Mm. Ouais, on avait des CP, différents âges, au CM, CM1. Mm. Voilà.
Est-ce que vous êtes en lien avec l'association La Marguerite, puisque il s'occupe d'enfants...
Voilà, on les connaît.
De familles endeuillées.
Et l'an dernier, ils étaient venus, ils avaient mené du monde. Et nous, quand ils font une conférence, on relaie à tous nos adhérents.
D'accord. Voilà. Parce que c'est un peu le même travail, un accompagnement en tout cas des enfants.
De deuil. Oui.
De deuil. Mm. Est-ce qu'on a tout dit ?
Non, pas encore. Alors, le jeudi soir, nous avons au cinéma, à Ciné Étoile, nous allons passer un film qui est passé un petit peu sur les écrans déjà, et les Mistral gagnants.
Je ne connais pas celui-ci.
Les Mistral gagnants, c'est justement un film où on voit la vie des enfants malades et l'humour et l'énergie qu'ils ont. Ils sont très optimistes, malheureusement, malgré la maladie, on dira. Voilà. Et ils ont des joies, des jeux, comme tous les enfants, les rires, les rêves. Là. Ils parlent très sereinement de la maladie. Et ils protègent beaucoup leurs parents. Voilà.
Et les Mistral gagnants, c'est un film assez récent. Hein,
oui, c'est ça.
Et oui. Vous savez le réalisateur ?
Alors, je l'ai sous les yeux. Un film de Anne Dauphine Julien.
Dauphine Julien.
Oui, il est sorti. Il est sorti en 2017, hein, c'est ça ? Oui, oui.
Et ce sera à quelle heure ?
Alors, ce sera à 19h15.
19h15. Est-ce qu'il y a un débat ? Après,
on répondra aux questions. Mm-hmm. On répondra aux questions éventuellement. Et alors c'est une entrée libre au vu des disponibilités de la salle. Voilà. Des
D'accord.
places.
Et bien, on aura un stand dans le hall du cinéma. Ça va être annoncé par le cinéma.
Dans le hall, voilà. On pourrait déjà avoir des renseignements.
J'aurais voulu compléter aussi par un petit renseignement. J'ai participé à une formation « Osons parler de la mort aux enfants et aux adolescents ». C'est une mallette avec plein de jeux. Elle y sera le jour de l'exposition. Et avec cette mallette, on peut aller dans les écoles faire une animation. Voilà.
Donc c'est ce que vous pouvez faire cette formation.
Oui, un complément.
Oui. Donc, vous pouvez. Donc là, vous négociez avec qui ? Avec l'académie, l'inspection d'académie ?
Alors, pour l'instant, on est en attente d'agrément.
National.
National, voilà, c'est national. C'est JALMAV, la fédération JALMAV qui est en train de faire un agrément. Et après, nous verrons si nous avons des demandes.
En attente d'agrément, donc,
c'est
pour
ça.
L'instant.
Dans le cadre de la grande campagne de la fédération, et osons parler de la mort aux enfants et aux adolescents.
Aux enfants et adolescents. Mais je dirais même qu'il faut oser en parler entre adultes aussi.
Tout à fait. Déjà, c'est ce qu'on nous a dit.
C'est pas simple. Hein,
oui, aux adolescents, c'est vrai qu'avec les conduites à risque, il y aurait de quoi faire, mais bon. On est quand même une petite association, on lance un appel au bénévolat, ce qui est difficile pour toutes les associations. Et quand on nous dit « Ah non, pas ça, hein, ça c'est pas possible », alors que bon, c'est pas plus difficile qu'autre chose, parce qu'on est dans des valeurs humanistes de solidarité. On écoute, c'est tout ce qu'on fait. On peut aussi être simple ambassadeur, connaître la loi, en parler, faire du secrétariat, de la comptabilité. Il y a des tas de choses sans aller, pour ceux qui en auraient la crainte, auprès de personnes malades ou en fin de vie. On rencontre des familles, on fait des rencontres magnifiques. C'est vrai que nous, on se ressource beaucoup dans cette association. Voilà. Mais c'est vrai que si on était un peu plus nombreux...
Alors, vous êtes combien, justement ?
Alors, on est au niveau de... on a un conseil d'administration, comme toutes les associations. Il y a actuellement 12 bénévoles actifs. Oui. Et sinon, on a 60 adhérents, quand même. Hein. L'adhésion, c'est pas cher, c'est 22 euros par an. Et donc, c'est vrai que ça nous aide, parce que ben, les formations, on donne une participation. Le groupe d'entraide au deuil qui se tient une fois par mois, l'accès est libre. On demande, et pour la formation aussi, on fait des formations, là aussi on peut faire participer des personnes qui ne sont pas bénévoles, mais on demande d'être adhérent pour des questions d'assurance, hein, après avoir essayé une séance.
Rappelez-moi, une fois par mois, c'est à la salle...
Alors, le groupe d'entraide au deuil,
oui.
Il est l'EHPAD de Notre-Dame-du-Bourg qui nous prête une salle, donc c'est à Notre-Dame-du-Bourg. C'est le mardi de 17h à 19h. C'est animé par notre formatrice psychothérapeute. Et je veux dire, le deuil, c'est quelque chose dont la Marguerite s'occupe plus spécifiquement des enfants. Mais c'est vrai que le deuil, c'est une problématique qui, de notre point de vue, au niveau de la fédération, et on est tout à fait d'accord avec ça, est maltraité. À ce jour, c'est vrai qu'avant, alors on ne va pas dire avant c'était mieux, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que les personnes en deuil étaient peut-être un peu plus entourées socialement, plus protégées. Maintenant, on veut que ça aille vite, quoi. On veut vite que les personnes aillent bien et tout ça. Et souvent, on rencontre des personnes avec des deuils anciens qui n'ont pas été...
Oui, des deuils qui datent des fois, voilà, de 30 ou 35 ans.
Et c'est vrai que ça libère la parole, que, oui, bien sûr, c'est un endroit où la confidentialité existe. On ne va pas dire à telle personne qui a dit ça, etc. Il y a des règles de fonctionnement. Mais c'est vrai que ça permet l'expression des émotions et que souvent, les personnes en ressortent mieux. Ça leur fait du bien.
Comment on sait qu'un deuil est fait ? C'est quand on arrive à en parler.
Voilà, je veux dire, c'est vrai qu'on travaille beaucoup le deuil dans la formation de base au niveau des bénévoles, parce que bien sûr, il y a le pré-deuil, il y a tout ça. On travaille aussi sur notre propre mort. Hein, je veux dire, on réfléchit, parce que si on est en deuil, par exemple, on peut faire de l'accompagnement. Hein, ça, je veux dire, on est très vigilant sur le cursus des bénévoles qui accompagnent. Parce qu'on veut maintenir une qualité d'écoute auprès des personnes et en même temps protéger le bénévole. S'il est trop fragile, eh bien, il va tout absorber et c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'ils ont, je le redis, un groupe de parole mensuel. Ce que n'ont pas forcément les soignants. Ils en auraient peut-être parfois bien besoin de pouvoir, oui, de temps en temps, entre guillemets, vider leur sac. Voilà. Alors, le deuil, ça a une durée. Hein, variable. Nous, on dit souvent que c'est minimum 2 ans. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, si la personne a la moindre évocation de la personne qui a disparu, elle pleure, elle n'arrive plus à vivre, elle est déprimée, elle mange mal, c'est un deuil pathologique, ça, on ne s'en occupe pas. Mais c'est vrai que c'est à chacun de dire comment j'accepte de continuer à vivre avec cette blessure. Un deuil, c'est une cicatrice. Mmh. Et maintenant, la cicatrice, à un moment, il faut ni qu'elle se ferme trop vite, ni qu'elle reste ouverte trop longtemps. Mmh. Voilà. Il ne faut pas qu'elle se ferme trop vite, parce que sinon, ça fait des abcès, ce n'est pas bon non plus.
Pour le temps.
Voilà. Le souci, c'est que les personnes ont du mal à exprimer leurs émotions. Alors, par exemple, une mère de famille qui a perdu son parent, elle ne veut pas pleurer devant ses enfants. Elle ne veut pas pleurer devant le conjoint. Donc, elle fait quoi ? Mmh. Elle pleure seule, voilà. Ou alors elle se l'interdit et c'est pas l'idéal non plus. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe, le deuil.
Voilà. Donc ce groupe d'entraide, c'est réservé à vous, accompagnants ?
Ah non, ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut nous joindre. Alors pour nous joindre, il y a plusieurs façons. Il y a le numéro de téléphone,
oui.
04 92 32 11 01. Il y a le site de l'association, Jalmav 04 Wanadou.
Alors ça, c'est l'adresse mail.
Voilà, l'adresse mail. Le site, pardon. Ouais. Pardon. On n'a pas de site. L'adresse mail.
Jalmav, alors.
Jalmav 04.
Oui.
@wanadou.fr. Et on a la permanence mensuelle, tous les mardis, le quatrième mardi du mois, au centre des Michel.
Ah oui,
de 14 à 16 heures.
C'est ça qui n'a rien à voir avec. Avec le groupe d'entraide.
Voilà. Alors, pour venir au groupe d'entraide, il faut nous contacter.
Oui.
Voilà. Faut nous contacter par téléphone ou venir nous voir et on donne les dates et on voit si ça correspond à la personne. Si... Ce dont on se rend compte souvent, c'est que quelqu'un qui est dans la détresse et qui nous appelle parce qu'elle accompagne quelqu'un, parce qu'elle a fait une perte, quelquefois, le seul entretien téléphonique fait qu'on n'entend plus parler de la personne parce que bon, déjà, elle sait qu'on existe et que si ça va pas, elle pourra nous joindre. C'est quelquefois très simple, la relation.
Donc, les permanences tous les quatrièmes mardis
du mois.
Mardi du mois, donc ça n'a rien à voir et ce sont des renseignements.
Tout à fait.
Tous les quatrièmes mardis du mois, et c'est-à-dire de quelle heure
de 14 à 16 heures. Ça apparaît dans la presse et donc on donne des renseignements sur le soin palliatif et puis on peut recevoir donc des personnes soit endeuillées, soit qui accompagnent eux-mêmes une personne malade qui ont besoin d'avis ou de déposer leurs émotions. Voilà.
Et oui, vous aviez participé donc à cette journée à l'hôpital. Comment ça s'est passé?
Écoutez, alors, on a eu des contacts quand même. Hein. On a eu, madame le docteur Raffi, elle apostrophait les personnes. Mais alors souvent, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas malade. Nous, on redit le message qu'elle a dit. Il faut en parler quand tout va bien. Parce que, voilà. Mais aussi avec des bémols, parce que quand tout va bien... On veut la mort, la belle mort, mourir dans son lit, tout ça. Puis quand on est malade, on se rend compte que c'est incroyable les forces que développent les personnes malades pour supporter des situations parfois difficiles. Parce que bon, la maladie, les traitements, c'est pas toujours facile. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on sait très bien que c'est difficile. Mais les personnes sont étonnées elles-mêmes de leurs ressources. Et pour les enfants, c'est pareil. Je conseille la lecture pour les enfants d'un livre qui s'appelle Oscar et la Dame Rose de Emmanuel.
Ils en ont fait un film.
Il en a fait un film. Mais le livre est très, très beau. Emmanuel.
Schmitt, non ?
Schmitt, voilà, Schmitt.
Oscar et la Dame en Rose.
Oh, il est très, très, très beau. Mais le livre est très beau. Il se lit très vite. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi beaucoup de rire. Et c'est vrai que nous, on le voit avec les personnes que l'on accompagne. Bon, elles disent leur détresse. Souvent, ce sont des personnes âgées, leur solitude. Et puis après, on parle de leur jeunesse, de ce qu'elles aimaient. Écoutez, l'autre jour, il y a une dame qui me dit « Vous êtes mon rayon de soleil. » C'est une super récompense. Et pourtant, on y va une fois par semaine, hein, maximum. Hein, on passe pas, bien sûr, on a nos propres activités.
Bien voilà, on va se quitter et donc cette émission sera en ligne dans le courant de la journée et on pourra retrouver aussi les liens vers la fédération ainsi.
Voilà, oui. C'est vrai qu'on met nos informations sur le site de la fédération et puis après sur... nous avons une personne dans l'association qui est beaucoup plus douée que moi en informatique et qui donne des informations qu'on peut lire au niveau de la fédé, je pense, au témoignage.
Merci Annie et merci Régine pour ces informations et puis vous serez toujours les bienvenus pour nous parler de l'actualité de Jalmalve. Donc on rappelle les dates de naître, grandir, vieillir et mourir, quatre étapes de la vie.
Du 17 au 19 octobre.
Salle de l'Atrium.
Salle de l'Atrium.
À Digne-les-Bains.
Voilà.
Merci, très bonne journée.
Au revoir. Au revoir.